Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Vous êtes bien sur la radio Nzamba Gate Kakawe. C'est Noël, jour de fête pour les chrétiens du monde entier qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. C'est le moment du journal. D'abord les titres. Les autorités burundaises doivent respecter les droits de l'homme. L'appel a été lancé par Mgr Gervais Vanchemiyoussa dans son homélie à l'occasion de la célébration de Noël, invitant ses autorités à suivre les conseils de Jésus-Christ. Et puis, cette rivalité entre le Service national des renseignements et les renseignements militaires, les deux corps se font une concurrence sans merci dans laquelle les seconds semblent plus faibles. C'est une révélation du faux codé dont vous entendrez le président Pacifique Nina Azoué dans ce journal. Que pensent ceux qui ont participé aux négociations d'Arusha à propos de la qualification par la CVR de génocide contre les Hutus des crimes commis en 1972 ? La réponse, c'est dans le mini-magazine Au cœur de la société. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Le respect des pauvres, l'amour du prochain, c'est ce que Jésus-Christ nous conseille de faire tous les jours. En cette journée de Noël, l'évêque du diocèse de Bujumbura, Mgr Gervais Vanchemiyoussa, demande aux autorités burundaises de prendre tous les Burundais au même pied d'égalité, de respecter les droits de l'homme pour que tous les fils et fils du Burundi se sentent chez eux. On l'écoute.
Mukwerekana ko twemera Noeli kandi twakiriye watuvukiye twitwararike cyane.
Pour montrer que nous croyons à Noël et que nous accueillons avec joie la naissance du Christ, qu'on se souvienne des démunis et les victimes d'injustice, grâce à nos capacités et nos pouvoirs, faisons tout pour rendre justice à ce genre de personnes. C'est comme ça que nous serons en train de donner la place qu'il faut au Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus a choisi de venir chez les pauvres et chez ces réfugiés qui n'ont personne pour les accueillir. Faisons du bien pour ces gens, comme ça, on sera en train de bien fêter Noël. Pour nous, croyants, demandons à cette journée spéciale pour que le Burundi évolue dans le sens du respect des droits de l'homme et en prenant la justice pour tout le monde, pour que les fils du pays et tous les habitants du Burundi se sentent chez eux et qu'ils aient une place de choix dans leur pays.
La fête de Noël est pour la deuxième fois célébrée dans le contexte particulier de Covid-19. Pour l'occasion, nos reporters ont fait un tour dans la mairie de Bujumbura où ils ont constaté que certaines églises observent les mesures barrières, mais d'autres non. Les chrétiens qui ont parlé à nos reporters indiquent que c'est pour veiller à leur propre santé qu'ils se protègent. En cette période, on enregistre une forte propagation de Covid-19 dans le pays. On fait le point avec Benny Axelakana.
À l'église Bamberger d'Ongagara, personne ne pouvait y accéder sans toutefois se laver les mains à l'entrée comme à la sortie. Le port de masque était exigé, ainsi que la distanciation sociale. La situation était ainsi à l'église Guérison des âmes, où le port du masque était respecté, ainsi que la distanciation sociale. On a remarqué aussi que tout chrétien se lavait les mains avant d'entrer. Toutefois, ces mesures n'ont pas été respectées dans d'autres églises. C'est le cas de l'église Saint-Sauveur Nyakabiga, où on a vu des réservoirs contenant de l'eau ainsi que du savon pour se laver, mais certains gens semblaient les ignorer. Et c'est par peur d'être contaminés que certains chrétiens de la capitale économique ont choisi de respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Ceux qui ont pu échanger avec nous indiquent que c'est pour leur propre intérêt, surtout que ces derniers jours on parle de la montée des cas testés positifs au coronavirus en mairie de Bujumbura. Il faut rappeler qu'il y a une semaine, le ministère de l'Intérieur avait suspendu tout rassemblement de la population, sauf dans les églises, à condition de respecter les mesures barrières contre cette pandémie de Covid-19.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la Covid-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Je vous le disais dans les titres, rivalité entre le renseignement militaire G2 et le service national des renseignements dans l'exercice de leurs fonctions. Cette rivalité a déjà fait des victimes au sein des renseignements militaires. Un officier et au moins deux sous-officiers sont détenus dans les cellules du service national des renseignements. C'est le résultat d'une enquête du Forum pour la conscience et le développement, enquête menée dans le cadre de sa campagne d'Ondesa. Pacifique Ninina Azoué, président du FOCODE, fait savoir que la détention de ces militaires a eu lieu après l'enlèvement de 5 personnes de la localité de Midodo sur la colline Mouhouzou de la commune et province Lumongue, des personnes qui ne sont jamais réapparues. Je vous propose de suivre Pacifique Ninina Azoué.
Depuis près de 2 mois, il y a des militaires affectés au renseignement militaire, communément appelé G2, qui sont détenus dans les cachots du Service national de renseignement, tout près de la cathédrale Regina Mundi à Bujumbura. Il s'agit notamment du lieutenant-colonel Libère Niyonkuru, numéro 2 du renseignement militaire, de l'adjudant-major Onesphore Ndayishimiye, alias Bradock, mais aussi de l'adjudant-chef Jean Bosco Aishaki. Ces militaires ont été notamment impliqués dans des cas d'enlèvement et de disparition forcée de dizaines de citoyens burundais, des civils, et cela s'est passé particulièrement entre les mois de mai et d'octobre 2021. Nous avons été alertés sur plusieurs dizaines de cas de personnes qui ont été victimes de disparition forcée et à la suite de leur enlèvement par le renseignement militaire. Selon nos informations, ces militaires ont été arrêtés par le Service national de renseignement après la disparition forcée de 5 personnes de la colline Mouhouzou en commune et province de Lumongue. Il s'agit notamment d'un sexagénaire du nom d'Alexis Nimobona et de ses 2 fils et d'un employé de la maison qui ont été arrêtés le 12 octobre 2021 autour de 2h du matin. Ils ont été arrêtés par ces éléments du renseignement militaire. Il y avait également un commerçant qui passait à Mouhouzou qui a été également arrêté au même moment et depuis leur arrestation, ces personnes sont devenues introuvables. Après que des proches des victimes ont cherché partout et n'ont pas trouvé les leurs, le Service national de renseignement a profité de ce cas pour arrêter ces militaires affectés au renseignement militaire et qui seraient impliqués dans cette disparition forcée. Cela n'a pas été fait, non pas que le SNR veut mettre fin au phénomène de disparition forcée, mais plutôt cela a été fait beaucoup plus pour régler des comptes.
Les responsables du Service national des renseignements perçoivent les actions du Service des renseignements militaires comme une ingérence et les agents des deux institutions se prêtent alors à une certaine forme de compétition dans l'optique de pouvoir en tirer des profits. Suivez les explications de Pacifique Nina Azoué.
Le Service national de renseignement est en concurrence avec le G2, le renseignement militaire, en raison de plusieurs points. C'est d'abord en raison du fait que le SNR considère que le renseignement militaire s'est inséré dans son travail en arrêtant des civils un peu partout dans le pays et sans informer le Service national de renseignement. Deuxièmement, il y a une concurrence sur les budgets, sur l'origine des fonds qu'ils utilisent. Selon notre information, le renseignement militaire se serait associé avec le renseignement interne du parti CNDD-FDD et le parti aurait financé certaines opérations d'enlèvement et de disparition forcée des citoyens. Nous avons également des informations que le responsable du renseignement intérieur, Alfred Innocent Mousseremou, serait très courroucé envers le G2 parce que le renseignement militaire aurait détourné un nombre assez important d'informateurs du SNR qui seraient allés au service du renseignement militaire. D'ailleurs, selon nos informations, un bon nombre de ces informateurs ont été arrêtés par le SNR et certains auraient même été tués. C'est une situation qui est extrêmement préoccupante et qui démontre encore une fois à quel point le régime burundais est impliqué dans des crimes extrêmement graves.
Et puis, Évariste Ndayishimiye devrait passer des paroles aux actes. C'est un clin d'œil du réseau des citoyens probes à la suite de la déclaration du chef de l'État devant les corps de sécurité qui lui présentaient leurs vœux de nouvel an ce vendredi. Évariste Ndayishimiye leur a dit qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la consolidation de la paix et la protection des droits de l'homme au Burundi. Pour Gervais Niligira, vice-président de cette association, le président de la République devrait agir devant les violations graves des droits de l'homme qui persistent dans le pays en traduisant les coupables devant la justice. Vanessa Moïteka.
Selon Évariste Ndayishimiye, le président de la République, toute personne doit garder sa dignité, même si c'est poursuivi pour ses actes. Les forces de l'ordre devraient veiller à la protection des droits de l'homme du jour au jour.
Faisons alors des amis les citoyens pour renforcer la sécurité. Cela va se concrétiser à travers le respect de leurs droits et libertés et de tout autre être humain. C'est pourquoi ici j'aimerais mettre en garde, vous les corps de défense et de sécurité, vous devriez à chaque fois faire respecter les droits de l'homme. Vous devez savoir qu'une personne incriminée reste un être humain. Celui qui sera accusé de traitement inhumain, nous ne tolérons pas, nous avons juré faire respecter les droits de l'homme.
Pour l'horizon des citoyens probes, RCP, Évariste Ndayishimiye, le président de la République, devrait passer de ses paroles aux actes et agir devant les violations graves des droits de l'homme qui persistent dans le pays, introduisant les auteurs devant la justice.
On a toujours entendu de bons discours, sans prononcer, mais des discours qui ne sont pas joints aux actes. Et aujourd'hui, l'opération burundaise a besoin d'avoir un discours, mais aussi d'avoir des actes qui accompagnent ces discours. Et aujourd'hui, alors, on peut se demander si le président de la République est au courant de ce qui se passe dans ces institutions. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des personnes qui sont arrêtées, qui sont torturées, et ceux qui sont portés disparus, mais qu'il n'y a pas de suivi de ces cas-là. Aujourd'hui, alors, le président de la République, dans son discours, il devrait faire un bilan des personnes qui ont été arrêtées par ces deux corps, des personnes tuées, des personnes arrêtées, ou des personnes qui ont été emprisonnées arbitrairement.
Évariste Ndayishimiye a déclaré ses propos devant les corps de sécurité qui lui souhaitaient les meilleurs vœux ce vendredi à Bujumbura.
Inzamba. Suite de ce journal avec la CVR qui a récemment qualifié de génocide contre les Hutus les crimes commis au Burundi en 1972, mais la Cour d'Arusha qui exige la création de cette commission ne lui donne pas la compétence de faire une telle qualification. Dans le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous donnons la parole à certains parmi ceux qui ont participé aux négociations d'Arusha. Émile Nivasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le génocide a été commis contre les Hutus en 1972. C'est ce que la commission Vérité et Réconciliation a récemment déclaré. Cette commission a signalé que d'autres crimes ont été commis contre les Tutsis dans la même période. Et pourtant, l'accord d'Arusha, qui exige la création de cette commission, ne lui accordait pas la compétence de qualifier les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 25 décembre 2021, nous allons accorder la parole à ceux qui ont participé aux négociations d'Arusha. À la présentation du mini-magazine, c'est Émile Nivasumba. Dans sa présentation devant le Parlement ce lundi 20 décembre 2021, le président de la CVR a déclaré que le génocide a été commis contre les Hutus en 1972 et 1973. Pierre Claver Ndayicharié a dit que d'autres crimes contre l'humanité ont été commis contre les Tutsis et les Hutus dans la même période. Jean Minani, l'un des politiques qui ont participé aux négociations d'Arusha, demande au gouvernement burundais de faire appel aux aux experts internationaux.
Le protocole 1, chapitre 2 et article 8 et 13, dans son point A, où on s'est entendu pour mettre en place la commission nationale chargée de la vérité de la réconciliation burundi, ce que nous avons appelé SEVER. Celle-ci avait comme mission d'enquêter, de qualifier, mais aussi d'arbitrer, de réconcilier, ainsi que la qualification de l'histoire du Burundi. Dans son rôle de qualifier le crime, il est écrit expressément, on s'est entendu expressément que cette commission nationale vérité et réconciliation n'a pas de compétence pour qualifier les actes de génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. On a insisté sur ce point parce que on avait peur qu'arrive à ce point une commission national risque d'être taxé de non-neutralité quand il pourrait qualifier ces crimes de crimes de génocide. Pour résoudre ce problème, nous sommes entendus que le gouvernement demandera à l'ONU de créer une commission internationale pour enquêter et donner son rapport au Conseil de sécurité afin que celui-ci puisse qualifier des crimes commis au Burundi s'ils sont réellement de crimes de guerre, de crimes de génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
Alphonse Rugambarara a également participé aux négociations d'Arusha. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau dans les déclarations de la commission Vérité et Réconciliation, sauf que la clarification de ce qui s'est réellement passé doit être faite par une commission internationale.
Dans le préambule de l'accord d'Arusha sur cette question-là, nous disions à l'article 3, point 3. Néanmoins, sans préjudice des résultats des travaux de la commission d'enquête judiciaire internationale et de la commission nationale pour la vérité et la réconciliation, qui doivent être établis en application du chapitre 2 du présent protocole, afin de faire la lumière sur les phénomènes en question, les parties reconnaissent que des actes de génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité ont été perpétrés depuis l'indépendance contre les communautés ethniques Hutu et Tutsi au Burundi. Ça veut dire en quelque sorte que ce que vient de déclarer le président de la CVR avait été déjà reconnu par les signataires de l'accord d'Arusha. Mais là où la CVR a dépassé ses missions, c'est qu'elle a clarifié. Or, cette clarification devait être faite par une commission d'enquête judiciaire internationale. Pour moi, c'est dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour les Burundi, pour aller vraiment dans le sens de la réconciliation, reconnaître que des crimes ont été faits sur les uns et les autres, et demander à ce que, au niveau de l'instance, des instances internationales, on puisse nous aider à les clarifier et à faire suivre soit la justice, soit le pardon, et ça, c'est aux Burundais d'en décider.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 25 décembre 2021. Vous étiez avec Émile Niwasumba, au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
On termine, comme tous les samedis, par la revue de presse hebdomadaire. C'est avec vous, Georges Nimenia.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue, chers auditeurs et auditrices de la radio Inzamba Gatea Kawe. Commençons cette revue par SOS Média, qui écrit sur la situation des réfugiés burundais du cas de Kakuma au Kenya, où sont signalés des cas de vol. La cible, c'est la partie occupée par des Burundais. La semaine du 13 au 20 décembre de cette année, 5 ménages ont été vandalisés. Des hommes munis de goudins et de machettes sont entrés dans des maisons le jour comme la nuit et ont volé argent, motocyclettes, vélos, ustensiles de cuisine et même des vêtements. Les plus visés, ce sont des commerçants, comme l'indique SOS Média. En cas de résistance, ils sont sérieusement tabassés et les services de sécurité n'interviennent pas pour les secourir. S'ils portent plainte à la police, les enquêtes n'aboutissent pas. Ils demandent à la police et à tous ceux qui assurent la sécurité du camp de protéger ces Burundais estimés à plus de 22 000 du camp de Kakuma. Le journal Iwacu écrit sur la politique. Le premier ministre burundais, Alain Guillaume Bunyoni, a précisé que la loi n'envisage pas que le gouvernement doit expliquer son plan d'action au Parlement. Le 17 décembre de l'année en cours, devant les deux chambres du Parlement réunies, les parlementaires ont voulu savoir pourquoi le plan d'action du gouvernement pour l'exercice 2021-2022 a été présenté tardivement. La réponse donnée par le Premier ministre est claire, je cite, « La loi n'envisage pas que le gouvernement doit expliquer au Parlement son plan annuel. Il doit plutôt soumettre le rapport de l'exécution de son programme. » Fin de citation. Sur la question de savoir comment les suggestions des parlementaires seraient intégrées dans le plan d'action gouvernemental, alors que le premier sommet se touche presque à sa fin, le chef du gouvernement a été clair, je cite encore, « La loi ne prévoit pas que l'Assemblée nationale et le Sénat incluent les suggestions dans le plan d'action du gouvernement. » Fin de citation. Pourtant, selon le journal Iwacu, l'article 206 de la Constitution du Burundi stipule que les membres de l'Assemblée nationale et le Sénat ont le droit de débattre de l'action et de la politique du gouvernement. L'article 207 de la même Constitution précise bien que le gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale et au Sénat toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes. Poursuivons cette revue avec Burundi Echo qui évoque la pénurie du ciment. Le journal se demande si la situation pourrait se débloquer de 2022. Le journal s'est rendu ce mardi au quartier asiatique réputé pour la vente des matériaux de construction. Le constat a été que les types de ciment vendus sont tous d'origine étrangère. Il s'agit du type d'angote provenant de la Zambie et du type Simba provenant de la République unie de Tanzanie. Dans tous les entrepôts, aucun sac de ciment de type Useco produit au Burundi ne s'y trouvait. Selon le journal, tous les entrepôts de la place qui vendent le ciment de type Useco étaient fermés pour manque de ce produit. Les acheteurs qui se sont conviés au journal disent qu'ils en trouvent, ils l'achètent à plus cher, car un sac qui coûtait 24 500 francs burundais se négocie entre 31 000 et 32 000 francs burundais. Venant Gendava Anha, directeur général du commerce, admet que l'offre du ciment Useco ne satisfait pas la demande à cause de beaucoup d'infrastructures publiques et privées qui sont en construction, mais il tranquillise qu'avec l'année 2022, il y aura une amélioration. Terminons cette revue par ABP Info qui dit que le manquement persiste dans la prise en charge des personnes handicapées. Les maisons d'encadrement des personnes en situation de handicap sollicitent l'intervention de l'État dans l'allègement des fardeaux qui pèsent sur ces centres d'encadrement. Ces centres évoquent les difficultés à payer les salaires des enseignants, les frais des soins de santé, ainsi que les coûts exorbitants des outils didactiques. Les responsables du centre étoile du matin de Mushasha à Itega dit que le gouvernement devrait payer les salaires des enseignants qui œuvrent dans les centres des handicapés comme il le fait dans d'autres établissements scolaires. Selon les responsables, les élèves handicapés sont des enfants du pays comme les autres enfants. À part le salaire des enseignants, son responsable fait savoir que les appareillages leur coûtent très cher. C'est notamment les prothèses, les béquilles, les chaises roulantes, les lunettes des malvoyants, etc. En plus, l'enseignement des élèves non-voyants ou malvoyants, celui des sourds, voire des sourds muets, nécessite des sports pédagogiques spéciaux et très coûteux. Voilà, madame, messieurs, c'est par-ci que nous terminons cette revue. Vous étiez avec Georges-Denis Ménia, au revoir, et bonne fête de Noël à tous les chrétiens.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Fin de cette édition, merci à la rédaction de la radio Inzamba Raté Kakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite une bonne fête de Noël. Au revoir.